Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Alors c'est la deuxième saison de ce podcast et on vous parle du quotidien des Français, du quotidien aussi des agents de notre beau ministère qui aident, qui protègent, qui orientent, qui réglementent aussi les moments forts de notre vie et qui sont au service des citoyens. Et on va vous livrer aujourd'hui quelques témoignages, quelques histoires, quelques actions dans notre beau et vif service public. Alors, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait hier quand même. J'ai été gare du Nord, j'ai pris le train, le Thalys, ça a duré un peu de temps. Je suis descendue à la gare à Rotterdam. À Rotterdam, j'ai pris un autre train pour aller jusqu'à La Haye. Et je vous parle aujourd'hui depuis La Haye, à Europol, depuis cette institution importante. Et j'ai avec moi deux Français qui ont des missions un petit peu différentes à Europol et qui vont nous parler très concrètement de ce que c'est la coopération européenne à Europol et qui vont nous parler de leur métier. Et moi, ce qui me fascine depuis qu'on s'en parle tout à l'heure avec Sébastien et Benjamin qui vont se présenter dans un instant, c'est à quel point finalement tout ce qui se passe au niveau européen change le quotidien des Français, a une implication directe sur la manière dont les forces de l'ordre travaillent en France. Et finalement, tout ce qui est mis en place ici au niveau européen a une implication directe sur le quotidien chez nous en France, dans notre beau pays. Bonjour Sébastien.
Bonjour Camille.
Merci beaucoup de nous accueillir. Tu es directeur de cabinet à Europol, tu es français. Je vais peut-être te laisser te présenter d'ailleurs et nous expliquer un peu ce que c'est Europol qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui.
Bah écoute, déjà bienvenue, merci de nous rendre visite à Europol. Nous sommes très heureux d'avoir la visite du ministère de l'Intérieur. Donc moi, effectivement, je suis français, je suis policier français aussi, puisque j'ai commencé ma carrière en 2001 dans la police nationale. J'ai fait l'essentiel de ma carrière en police judiciaire, avec des postes opérationnels sur le terrain, dans la financière, dans la lutte contre le trafic de drogue et la traite des êtres humains.
Tu as été un enquêteur de terrain?
J'étais un chef de service d'enquête, effectivement, et donc de terrain, puisqu'en police judiciaire, il faut savoir monter dans les voitures, passer les menottes, faire des auditions, et toutes ces activités qui sont extrêmement stimulantes et qui sont la raison première pour laquelle je suis entré dans la police, en fait. Et suite à ça, la carrière m'a amené à travailler à l'étranger, en Bulgarie, où j'ai représenté le ministère de l'Intérieur en tant qu'attaché de sécurité intérieure. C'était une expérience extrêmement enrichissante sur le niveau à la fois stratégique, mais opérationnel aussi, puisqu'on participe à la sécurité des Français avec ces postes-là. Suite à cela, je suis revenu en France, à Paris, où j'étais chef d'état-major de la direction centrale de la police judiciaire, où je crois que nous sommes croisés à cette époque, notamment pendant toute la période des attaques terroristes donc de 2015 et de 2016, qui ont fortement marqué la France, mais pas seulement la France, et l'Europe également, et Europol, et je pense qu'on y reviendra. Et c'est d'ailleurs peut-être cela qui a surtout motivé ma venue à Europol. J'étais, de par le travail d'investigation sur les grandes filières, j'étais toujours motivé par les sujets internationaux, puisque quand on travaille sur ces grandes filières de terrorisme, de crime organisé, on a toujours des éléments à l'étranger. Lorsque j'étais chef de la brigade des stupéfiants, on allait régulièrement en Espagne, aux Pays-Bas également, pour nos enquêtes, ou pour la traite des êtres humains en Bulgarie, en Roumanie ou d'autres pays.
Il y a toujours des ramifications étrangères quand on traite des grandes enquêtes judiciaires.
C'est quasiment systématique. On ne pourrait pas dire tout le temps, mais quasiment systématique. Et c'est une partie du puzzle qui se trouve là-bas, pour pouvoir recueillir les éléments de preuve, parfois arrêter des gens, et donc les traduire devant la justice.
Sinon, finalement, on démantèle comme petit bout si on reste sur les filières françaises. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de la filière.
C'est le but, c'est de démanteler, effectivement. Et pour démanteler, il faut s'attaquer à l'ensemble, comme tu le soulignes. Et pour ce faire, effectivement, il faut avoir une vision qui ne s'arrête pas forcément à nos frontières, puisque ces groupes criminels se jouent des frontières. Ça, c'est une chose certaine. Donc voilà, donc je suis arrivé à l'état-major des CPJ, et là, avec toutes ces enquêtes, notamment sur le terrorisme, notamment les attaques du 13 novembre, on a étroitement impliqué Europol, et j'ai vu toute la plus-value que pouvait apporter cette agence, et cela m'a motivé encore plus pour rejoindre cette agence où je travaille depuis 2019 en tant que directeur de cabinet.
Alors, à Europol, je crois que vous êtes un peu plus de 1350 agents à travailler directement pour Europol, c'est ça ?
Tes chiffres sont bons, les chiffres sont exacts.
Ouf, j'ai bien travaillé, j'ai bien révisé.
Donc, je vois que le ministère de l'Intérieur est bien renseigné. Ça ne m'étonne pas. C'est 1350 agents, effectivement, qui travaillent au siège à La Haye, sans compter les officiers de liaison, mais ça, je laisserai Benjamin en parler. En tout, ça nous fait une plateforme qui est de 1600 personnes.
C'est une vraie fourmilière ici. Hein. Quand je suis arrivée, bon, j'ai été chercher un café, ce qui est bien logique ce matin. Et c'est vrai que c'est une vraie fourmilière. On entend parler toutes les langues à Europol. Il y a des personnes dont on sent qu'elles viennent de tous les pays. Et ça doit être agréable quand on travaille pour une agence européenne d'avoir ce côté melting pot.
C'est une énergie permanente. C'est vraiment effectivement le sentiment qu'on a. C'est là où les gens se rencontrent, apportent leur expertise. Et en fait, non seulement il y a les agents qui travaillent en permanence au siège, mais les gens que vous pouvez voir lorsque vous venez à l'agence, ce sont aussi tous les enquêteurs de l'ensemble des pays européens qui viennent pour travailler sur des dossiers, échanger concrètement, élaborer des tactiques d'enquête. Et c'est aussi ça qu'on fait à Europol, parce qu'en fait, à Europol, notre mission première, c'est d'être le centre névralgique pour l'information criminelle. Donc nous recevons de l'information de l'ensemble des pays de l'Union européenne sur les enquêtes qu'ils ont sur la criminalité organisée et le terrorisme. Nous établissons des liens. Nous indiquons aux différents services qu'ils peuvent se rapprocher de tel ou tel pays pour avoir des informations complémentaires. Nous les soutenons dans l'analyse et nous fournissons toute une série de services qui fait d'Europol une plateforme de coordination et de coopération. Nous travaillons avec les pays de l'Union européenne, mais nous avons aussi des partenariats avec d'autres secteurs clés, d'autres pays stratégiques, notamment l'Australie, les États-Unis.
L'Australie, c'est intéressant.
La Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée, c'est très important pour la cybercriminalité. Nous travaillons beaucoup avec les États-Unis, comme je l'ai indiqué. Nous avons l'Ukraine aussi, nous avons l'officier de liaison de l'Ukraine qui est présent, de la police ukrainienne. C'est le seul officier de liaison de la police ukrainienne à l'étranger à l'heure actuelle, ce qui nous permet vraiment d'apporter un soutien important à ce pays.
Alors toi, Benjamin, tu es aussi policier. Tu es aussi français, mais tu as un statut différent et tu travailles différemment avec Europol.
Tout à fait, Camille. Alors, avant de te répondre et de commenter...
Dis-nous qui tu es.
Voilà. Avant ça, je voulais te remercier effectivement d'être déplacé avec ton équipe jusqu'à La Haye, parce que même si Europol connaît une notoriété, je dirais, croissante au gré d'affaires qui ont été largement couvertes par les médias ces derniers mois, je pense que c'est une institution qui reste quand même relativement méconnue du grand public en France.
On la connaît, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours exactement ce qu'elle fait.
Exactement. Et c'est vrai également de l'unité que je dirige, qui est le bureau de liaison France à Europol, unité qui joue pourtant un rôle vraiment clé dans l'articulation entre les services d'enquête et les services de police français et l'agence. Alors, pour me présenter un peu, donc je suis commissaire de police également, et j'ai aussi une première partie de carrière, j'ai fait aussi une première partie de carrière en police judiciaire en France, dans des services d'enquête. Alors, tout d'abord dans une unité de lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, puis après dans une unité judiciaire de lutte antiterroriste. Et c'est à cette occasion que je suis rentré, je dirais, pour la première fois en contact avec Europol. Et tout comme Sébastien, ça s'est fait dans un contexte très particulier, qui était celui des attaques terroristes de 2015 en France et de leur suite. Puisque à cette occasion, Europol est véritablement monté en puissance, en tout cas sur le volet antiterroriste. Tous les analystes français de l'agence, auxquels se sont adjoints des analystes d'autres pays, se sont regroupés dans un groupe de travail qu'on a baptisé Fraternité, et en fait se sont mis à analyser toutes les données qui remontaient des services d'enquête français, mais aussi des services étrangers sur ces attaques, et ont procédé à des recoupements. Et on l'a vu, notamment à l'occasion des procès récents, que Europol a joué un rôle déterminant sur certains volets des enquêtes. Europol a contribué à l'identification des terroristes. Europol a permis de comprendre comment des terroristes venant de différentes zones du globe avaient pu arriver en France. Europol a également permis d'établir des liens entre différentes attaques et projets d'attaque. Je pense par exemple au projet d'attaque contre le Thalys à l'été...
Oui, on en a beaucoup parlé.
Voilà, à l'été 2015, les attaques du 13 novembre 2015 et les attaques de Bruxelles quelques semaines plus tard. Voilà, ça...
Tout ça, c'est aussi grâce à Europol. C'est la police française, la police judiciaire française notamment, mais c'est ce travail d'Europol aussi et de lien avec les autres pays.
Voilà, Europol a clairement joué vraiment un rôle crucial. Voilà, donc moi, c'est dans ce contexte-là que...
C'est ce qui t'a motivé, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que Europol développe, et on y reviendra sans doute, et là, Sébastien a commencé à l'évoquer, mais Europol, c'est une nouvelle façon de faire la police, c'est un nouveau modèle de police qui est extrêmement intéressant, et c'est vrai que moi, j'avais envie de faire partie de cette aventure-là.
Alors, quel est ton positionnement? Toi, tu es envoyé par la France à Europol, c'est ça? Contrairement à Sébastien qui travaille pour Europol.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que donc, moi, jusqu'alors, j'étais vraiment en France, dans des services d'enquête, et là, je suis passé de l'autre côté du miroir, si on peut dire. Là, je suis positionné à l'agence, je dirige le bureau de liaison France à Europol. Alors le bureau de liaison France à Europol, en fait, c'est une structure qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire, donc de la direction générale de la police nationale, mais qui est une structure interministérielle. C'est une structure qui est composée d'une dizaine d'officiers de liaison qui viennent des quatre principales institutions qui, en France, possèdent des pouvoirs de police judiciaire, à savoir la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ça c'est pour la partie ministère de l'Intérieur.
Ça c'est le renseignement.
Oui, alors c'est le renseignement, mais qui possède aussi des prérogatives judiciaires en France. Et également la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, ça c'est pour la partie ministère des Finances.
Donc, police, gendarmerie, douanes, renseignement.
Exactement,
Tu rassembles tout ça, on rassemble tout ça. Tu es la tête de pont de la France à Europol.
Exactement. Et si je peux en dire debout un peu, le bureau de liaison, je dirais, a deux missions principales. La première, c'est vraiment de soutenir les enquêtes qui sont menées en France, se faisant le relais de l'offre de services d'Europol. C'est-à-dire que les officiers de liaison du bureau de liaison France à Europol sont tous spécialisés thématiquement. On a un officier de liaison qui est spécialisé dans la cybercriminalité, un autre qui va s'intéresser aux questions de pédocriminalité, un autre des atteintes aux biens, un autre de l'antiterrorisme, etc. Et donc, ces officiers de liaison vont au contact des services d'enquête français et vont leur proposer des solutions pour faire progresser leurs enquêtes et donc les aider à rentrer en contact avec l'agence, les soutenir à l'occasion des réunions qui sont organisées à Europol. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on accueille des enquêteurs français ici à La Haye.
Est-ce que des fois, pour les enquêteurs, ils ne savent pas exactement vers quelle porte se tourner, effectivement, et donc ils vous demandent à vous pour faire le lien avec les bonnes personnes ou pour trouver les bonnes ressources à Europol ou dans d'autres pays, c'est ça?
C'est ça, oui, c'est ça, parce que Europol, quand même, commence à être un outil très largement diffusé, quoique de manière inégale entre les services.
Une fois qu'on l'a testé, on l'adopte, c'est ça?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, un peu, notre stratégie, c'est d'aller voir un service, de leur dire « Attendez, on est au courant d'une affaire en cours chez vous ». Utilisez Europol et vous verrez, vous aurez des résultats. Et généralement, ils ont des résultats. Et c'est comme ça que le recours à Europol se diffuse au sein des enquêteurs. Outre cette mission, je dirais, de soutien aux enquêtes françaises, qui est vraiment une mission opérationnelle, une toute autre activité du bureau de liaison, c'est de participer, je dirais, au dispositif de représentation et d'influence de la France au sein de l'agence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut clairement dire qu'il y a un moment français à Europol. Le conseil d'administration de l'agence est présidé par Jérôme Bonnet, qui est l'actuel directeur central de la police judiciaire. Et le bureau de liaison...
C'est la première fois que c'est un Français, d'ailleurs?
Non, c'est pas la première fois, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a le directeur central de la police judiciaire qui s'investit dans ces activités importantes pour l'agence, mais importantes pour la police. Ça aide à faire connaître, ça montre aussi la montée en puissance de l'agence, puisqu'on avait eu précédemment des présidents du conseil d'administration français, mais pas de ce niveau. Et le dialogue est de plus en plus suivi par les chefs de police à travers l'Europe. Et l'implication de Jérôme Bonnet est vraiment un signe positif et participe effectivement à un dialogue très stratégique pour que l'agence apporte le soutien nécessaire aux services de police français et européens.
Là, c'est un nouveau modèle de police qui est en train de s'inventer à Europol, et la France entend clairement peser sur la définition de ce modèle. Voilà. Et donc nous, au bureau de liaison, on est là aussi pour relayer, donc opérer à un niveau, je dirais, plus stratégique, même plus politique, et pour relayer en fait les positions françaises.
Mais c'est très très clair. Alors justement, quelle est la stratégie globale d'Europol? Est-ce qu'il y a des menaces? Est-ce que vous essayez d'anticiper des nouvelles menaces et prioriser vers ces nouvelles menaces? Ou alors vous suivez la criminalité transnationale et vous essayez de choisir le spectre le plus haut de cette criminalité? Comment vous travaillez pour prioriser finalement? Parce qu'il y a tellement de criminalité partout.
C'est un vaste sujet. Pour répondre à cette question, mission, je pense que d'abord, il faut rappeler notre mission. Notre mission, c'est rendre l'Europe plus sûre. Cette mission, on ne l'exerce pas seul. On l'exerce en soutien de l'ensemble des forces de police et de sécurité des pays de l'Union européenne. Donc, on est un acteur de soutien. Donc, nous n'allons pas arrêter directement les personnes à Europol. Il y a des policiers, des gendarmes, des douaniers, comme on l'a dit. Mais ces gendarmes, ces douaniers, ces policiers n'ont plus de pistolets. Pour résumer, on n'a pas d'armes à feu. Lorsqu'on accompagne les collègues sur le terrain, c'est pour récupérer les informations. Et notre premier métier, en fait, c'est traiter l'information criminelle. Ce n'est pas le seul, mais c'est le métier, si on doit retenir quelque chose, c'est ce métier-là. Ce métier qui...
C'est pas vous qui interpellez, quoi.
C'est pas nous qui interpellons. Nous sommes avec les forces de police lorsqu'elles interpellent, mais on permet d'établir le renseignement qui amènera à identifier peut-être les coupables et à les traduire devant la justice. Donc, nos priorités, elles s'établissent en lien avec les pays membres par rapport aux menaces les plus pressantes pour la sécurité de l'Union européenne. Nous évaluons ces menaces, nous évaluons cela à travers des rapports d'analyse stratégique que nous faisons et qui sont communiqués à l'ensemble des gouvernants et des forces de police. Et nous effectuons par la suite aussi des développements de schémas tactiques et de solutions techniques afin d'apporter des réponses aux besoins les plus pressants, par exemple sur des solutions innovantes. C'est quelque chose que l'on fait énormément en matière de cybercriminalité. Si je dois prendre un exemple, par exemple le traçage des crypto-monnaies, c'est une méthode de plus en plus utilisée par les criminels pour cacher et pour récolter l'argent, ne serait-ce que par exemple, pour revenir à la cybercriminalité en matière de ransomware, donc de logiciels malveillants avec des demandes de rançon qui s'effectuent par des crypto-monnaies. Tracer ces crypto-monnaies, les saisir, c'est une technicité importante que toutes les forces de l'ordre n'ont pas. Et à Europol, nous développons à la fois la technique, l'expertise et les solutions qui permettent de remonter ces chaînes d'échange de crypto-monnaies.
Donc ça, c'est l'évaluation de la menace générale, la priorisation. À quel moment, en fait, tout ceci a des incidences directes sur le quotidien des Français ou sur la manière dont les forces de l'ordre en France travaillent ?
Je trouvais ta question sur les différents niveaux de criminalité passionnante et ça va me permettre de te répondre. C'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, et ça Europol, enfin, comme d'autres services de police l'ont bien mis en évidence, c'est quand même le phénomène de la polycriminalité. C'est-à-dire qu'on a des groupes criminels qui vont investir différents champs de criminalité, qui vont faire aussi bien dans la criminalité, je dirais par exemple le trafic de stupéfiants, que dans la criminalité économique et financière. Ce qui fait que cette distinction finalement entre haut et bas du spectre de la criminalité...
C'est elle pas doit une bonne manière de réfléchir en fait.
Peut-être, mais en tout cas, il faut la sophistiquer un peu, je pense. Et là, j'en arrive à ta question, en fait, sur le caractère très concret hein, de ce qu'on fait à Europol et des enquêtes qu'on mène qui, je dirais, vont toucher le quotidien même des Français. Je vais prendre un exemple tout à fait récent d'actualité qui va pour essayer d'illustrer ça. Il y a quelques mois, un service de police judiciaire de la banlieue d'une grande agglomération française constate une recrudescence de cambriolage dans son secteur de compétence, mais selon un mode opératoire très très particulier d'effraction des portes.
C'est-à-dire, c'est pas comme d'habitude, c'est des pas... traces de pesée ou je voilà, sais pas quoi, voilà. C'est quelque Donc, chose de différent.
Je vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, pas de traces de pesée.
C'est nouveau.
C'est nouveau et ça ressemble à une signature, parce qu'il y en a beaucoup et que c'est inédit. Et la chef de ce service a l'excellent réflexe d'envoyer un message à Europol parce que en fait chaque enquêteur de police judiciaire, enfin chaque enquêteur qui exerce des fonctions de police judiciaire en France a directement ou indirectement accès à une messagerie sécurisée qui lui permet de communiquer en fait avec Europol via des relais français. Et donc cette chef de service décide d'envoyer un message à Europol pour information en disant voilà, on a ce phénomène là, pour nous c'est inédit, on n'a jamais vu ça. Est-ce que d'autres pays, est-ce que vous êtes au courant de ce mode opératoire, est-ce que d'autres pays ont ça? Elle envoie son message, donc ça passe par un point central là, qui se trouve au siège de la direction centrale de la police judiciaire. Ça arrive chez nous, au bureau de liaison France-Europol. Nous, on transmet aux analystes d'Europol. Europol répond, consulte les pays qui sont membres et puis les pays tiers. Il répond, non, on ne connaît pas.
C'est nouveau, on ne connaît pas.
D'accord. Plusieurs semaines se passent, plusieurs même mois se passent. Et là, on a le bureau autrichien qui envoie, selon le même procédé, un message Europol en disant « on a ça qui apparaît ». Et donc là, l'Autriche et la France se mettent en relation. Et quelques mois plus tard, c'est au tour de l'Allemagne de prévenir Europol, puis l'Espagne. Et donc là, on se rend compte qu'on a une équipe qui sillonne l'Europe en commettant des cambriolages selon ce mode opératoire. Les services d'enquête se mettent en relation grâce à Europol, des réunions sont organisées, un service fournit un ADN récupéré sur une des scènes de délit, un autre service fournit un numéro de téléphone qui repérait systématiquement sur les lieux d'infraction, et l'équipe de cambrioleurs est identifiée et appréhendée. Et on se rend compte qu'effectivement, ce qui au départ pouvait malheureusement apparaître comme un cambriolage anodin était en fait l'œuvre d'un groupe criminel organisé qui sillonnait l'Europe et qui faisait ça de manière professionnelle.
Et où tous les pays ont dû collaborer sous l'égide d'Europol pour résoudre l'enquête. Finalement, j'ai l'impression en t'écoutant que le terrain d'enquête finalement il est plus national, il est clairement européen. Et avant, peut-être des enquêteurs pouvaient se passer un coup de téléphone d'un département français à l'autre. Et là, finalement, c'est entre tous les États membres. Et peut-être même, tu le disais tout à l'heure, Sébastien, avec d'autres pays tiers avec lesquels Europol collabore.
C'est ça. C'est, je dirais, le terrain de jeu, le terrain de jeu s'élargit, mais la manière de faire aussi change. La manière de faire change parce que, effectivement, comme l'a évoqué Sébastien, là, on est dans une démarche vraiment de renseignement criminel où on va exploiter la moindre information.
Et est-ce que tu penses que la victime du cambriolage de cette banlieue de grande agglomération française que tu évoquais, est-ce que tu penses que la victime, elle a su au moment où vous avez résolu l'enquête que c'était aussi grâce à Europol et grâce à des policiers de tous les pays qui finalement ont travaillé en coopération pour arriver à résoudre cette enquête? Est-ce que les gens ont autant conscience que l'Europe finalement est dans leur quotidien? Parce que c'est le cas, c'est ce que tu viens de nous expliquer en fait.
Oui, j'aurais du mal à te.
On devrait dire aux policiers, aux gendarmes français d'expliquer ça quand ils résolvent les enquêtes.
Oui, ça c'est sûr, parce que non, Europol vraiment travaille pour la sécurité du quotidien. Là, j'ai pris un exemple d'un cambriolage, mais j'aurais pu en prendre dans bien d'autres domaines, hein. Des vols de véhicules, la pédocriminalité, un sujet qui est vraiment brûlant aujourd'hui, ce sont les attaques cyber, hein, quand un hôpital ou une mairie se fait attaquer, ou lorsque on prévient une attaque cyber. On a encore eu le cas très récemment, c'est aussi grâce à Europol.
Alors Europol est aussi en prévention, pas seulement dans la coopération judiciaire une fois que les faits se sont passés, vous êtes aussi sur un travail de renseignement et d'échange en amont.
Notre mission première, c'est l'information criminelle, mais le renseignement criminel recouvre plusieurs réalités. Et effectivement, à travers cet échange, il nous arrive d'identifier des phénomènes, d'alerter les services sur des phénomènes qu'ils n'avaient pas encore détectés. Donc c'est la plus-value, je dirais un peu ce que j'ai tendance à dire aux services de police qui viennent nous voir et qui essayent de comprendre, parce que Europol reste une machine complexe, hein, et donc on a besoin par exemple de l'outil du bureau de liaison et de toute l'activité de Benjamin et de ses services pour faire comprendre quel type de service on peut avoir. C'est complexe parce qu'on apporte des solutions de haute technicité. Mais ce que j'ai tendance à dire aux services, c'est à Europol, vous n'avez pas seulement la réponse à la question que vous vous posez, mais aussi à la question que vous n'avez pas encore identifiée. Parce que vous apportez vos éléments d'enquête et vous avez peut-être identifié un lien avec l'Espagne, un lien avec l'Allemagne, mais il y a des numéros de téléphone qui sont français, mais qui d'un seul coup apparaîtront dans une enquête suédoise et vous ne le savez pas. Et c'est peut-être cet élément-là qui sera décisif pour remonter à la tête de réseau, pour identifier la cargaison de drogue. Donc ça, c'est un peu cette richesse collective, à partir du moment où on met les choses en commun, il y a la confiance nécessaire, c'est aussi ça qui est important à Europol, il y a une confiance entre les pays membres de l'Union européenne pour partager, on ouvre nos frontières, on partage nos frontières, mais la contrepartie c'est qu'aussi vous avez des enceintes comme Europol, vous partagez vos données et vous travaillez ensemble à la sécurité.
Et justement, est-ce que tu travailles avec Eurojust, qu'on connaît pas beaucoup en France finalement, et avec Frontex ou avec d'autres entités européennes qui, pour nous, sont des fois un petit peu éloignées de notre quotidien, justement?
Oui, mais c'est un peu comme au niveau national, c'est-à-dire qu'on ne produit pas la sécurité tout seul, on fait partie d'une chaîne, d'un environnement, d'un écosystème. Et à cet égard, effectivement, Eurojust est de l'autre côté de la rue. Donc c'est très facile pour nous d'enchaîner à la fois des réunions de coordination policière et par la suite des réunions de coordination au niveau judiciaire, puisque une fois qu'on a identifié un phénomène criminel, il faut pouvoir aussi les traduire devant la justice, et ça demande la coopération entre les acteurs judiciaires. Donc ça, c'est une chaîne, ce qu'on appelle la chaîne pénale. Elle existe au niveau national, mais au niveau européen également. Et il y a aussi, dans le secteur des affaires intérieures, des partenaires très importants, Frontex.
Un peu plus loin, je crois, sinon ils sont en Pologne.
Ils sont en Pologne, donc on ne traverse pas la rue. On a des officiers de liaison, donc on échange des officiers de liaison pour échanger au quotidien. On est présents ensemble sur ce qu'on appelle les hotspots. Donc des agents d'Europol et des agents de Frontex sont présents en Italie, sur les îles grecques, pour travailler à la sécurisation de l'Union européenne par rapport à l'arrivée de migrants et de certains éléments peut-être menaçants dans ces arrivées. Donc c'est notre but, c'est d'effectuer des vérifications à ce niveau-là. Et Frontex, et si je dois résumer l'activité de Frontex, c'est les gardes frontières de l'Union européenne. Et nous, on est la police criminelle, on le soutien de la police criminelle en Europe. Si je dois vraiment schématiser, c'est toujours un peu plus complexe. On travaille également avec Interpol, puisque effectivement, ça ne s'arrête pas à nos frontières. Et Interpol est aussi un acteur majeur pour la coopération policière dans le monde.
Toi, sur ces dernières années où tu es très, très impliqué à Europol, est-ce qu'il y a une affaire particulière qui t'a marqué ou que tu aurais envie de partager avec nous, où tu t'es dit, tout ça, enfin... Toute ma carrière, finalement, je suis heureux d'avoir pu participer à cette enquête ou d'avoir eu une implication dans cette enquête qui a changé quelque chose. Vraiment.
Alors,
On a,
et c'est ça qui est très, très stimulant également, c'est qu'on a une activité croissante parce que nos services intéressent les services de police européens et français. Et donc, tous les jours, nous avons des activités d'envergure significative. Ce qui, pour quelqu'un qui, comme moi, est passionné de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, est fascinant. Je dirais qu'au-delà de la Task Force Fraternité, donc de ce qui a été mis en place pour travailler contre les réseaux terroristes qui ont frappé la France, la Belgique et l'Europe en 2015 et 2016, qui ont été pour moi effectivement un des éléments marquants, je dirais que c'est les affaires des réseaux encryptés de communication utilisés par les criminels, le réseau EncroChat, le réseau SkyCC. C'est pour moi, mais je pense pour énormément de spécialistes dans la lutte contre la criminalité organisée, une étape sans précédent. Puisqu'on a, en fait, par ces activités qui nous ont positionnés sur des communications cryptées utilisées par les malfaiteurs pour échanger toutes leurs activités criminelles, on était à la table avec eux. Je pense qu'on n'a pas de précédent de telle ampleur dans l'histoire de la police criminelle.
Et des enquêtes que vous résolvez aujourd'hui, c'est grâce à ces finalement les suites d'enquêtes d'EncroChat.
C'est exactement EncroChat et SkyUCC qui étaient deux réseaux d'ampleur très significative. Nous ont permis de collecter une masse d'informations énorme. On parle plus d'un milliard de messages qu'il faut traiter. Et là, c'est là qu'Europol joue son rôle, puisque en fait, c'est des enquêtes qui ont été initiées par la France, les Pays-Bas et la Belgique. Et les informations qui étaient collectées dépassaient ces simples territoires. Et concerner des réseaux criminels qui agissent sur l'ensemble de l'Europe, voire du monde entier. Et à travers cela, nous avions énormément d'informations à analyser. Ce que nous avons fait pour délivrer des messages de renseignement aux différents pays qui ont procédé à de nombreuses arrestations. On parle de 10 000 arrestations à ce stade, des quantités de drogue très importantes, plusieurs centaines de tonnes de cocaïne. On parle de chiffres de saisies de cash de plusieurs milliards. On est vraiment sur des quantités énormes. Et tout cela, en fait, continue à produire des fruits.
Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Sébastien, on pourrait avoir l'impression, quand on est éloigné de ces milieux-là, que finalement, là, on s'intéresse vraiment à un milieu fermé de criminels, etc. Et pourtant, ces trafics de stupéfiants ont véritablement un impact sur le concret de la vie des citoyens, que ce soit en France ou en Europe. L'ampleur des données collectées là, au cours de ces deux affaires a véritablement justement permis de comprendre dans le détail le fonctionnement de ces entreprises criminelles qui vraiment ont un impact vraiment même dans l'économie réelle, c'est-à-dire que on n'est pas là dans une sphère séparée du reste de l'économie et du reste de la société. Ces affaires ont aussi permis d'empêcher clairement des assassinats en pleine rue. Enfin, il y a eu plusieurs comme ça atteintes à la vie qui ont été
empêchées. De la polycriminalité. En fait. Derrière, ça permet de démanteler plein de choses différentes et de tirer toutes les ficelles finalement.
Exactement. Voilà. Là, on est sur des criminels spécialisés qui opèrent à un niveau qui est effectivement difficilement imaginable quand on n'est pas spécialiste, mais qui en fait ont un impact sur la vie réelle des gens.
Je pense que c'est très important ce que dit Benjamin, parce qu'en fait, c'est aussi une des leçons qu'on a tirées de ces affaires. C'est qu'en fait, à la fois, nous avons un échelon international qui est très présent. Les capacités de communication avec des gens placés au Brésil, dans des îles, à Dubaï, qui gèrent le trafic qui arrive à Antwerp, qui arrive à Anvers, donc qui arrive à Rotterdam, qui arrive à Barcelone, qui arrive à Marseille. Et en même temps, la chaîne n'est pas si longue que ça, entre ces gens-là et les criminels qui sont identifiés par le citoyen sur la revente de drogue, sur les violences. C'est vraiment une leçon très importante pour nous. Et à travers cela, on a réalisé des opérations qui ont permis de frapper, pour une fois, la tête. Et c'était ça notre but, frapper la tête et frapper les structures déterminantes, les structures logistiques, afin de pouvoir en fait fragiliser ces structures criminelles. Et donc c'est ça qui rend ces affaires très intéressantes, avec une cartographie aussi de la menace qui est sans précédent. Si je dois juste citer un exemple, nous avons arrêté à Dubaï 7 individus, c'est pas énorme en soi, mais ces individus représentaient plus d'un tiers de toute la cocaïne, gérer plus d'un tiers de toute la cocaïne qui était importée en Europe.
7 personnes pour un tiers de la cocaïne en Europe, bon, du marché.
Exactement.
Et c'est, vous les avez arrêtés grâce au travail...
Alors, c'est grâce au travail de l'agence et des pays impliqués, donc notamment la France a été très impliquée avec l'OFAST. D'autres pays également, chacun avait un peu ses objectifs à travers ces 7.
Il y avait des Français parmi ces 7.
Il y avait des objectifs français qui importait effectivement de la drogue, qui frappait ensuite le territoire français. Et donc, ces arrestations-là sont sans précédent et la perception qu'on a de leurs activités, pour pouvoir clairement dire qu'ils représentent 30% de la drogue importée en Europe, est quelque chose qu'on n'aurait pas pu réaliser auparavant. Donc ça, c'est vraiment un succès qui est un succès commun, un succès collectif, qui demande beaucoup de technicité, la technicité pour capter ces réseaux de communication cryptés, la technicité pour analyser la donnée par ailleurs, et de la coordination afin de pouvoir travailler, notamment avec les Émirats Arabes Unis. Là encore, on a franchi une étape. La France a été importante là-dessus, puisque l'officier de liaison des Émirats Arabes Unis est basé à Paris. C'est grâce à lui qu'on a renforcé la coopération avec Europol et ce pays, et qui a permis notamment d'aboutir à ces arrestations.
Voilà, puis pour parler aussi d'influence française, ces deux affaires donc, qui sont en partie initiées par la France, la France a clairement joué un rôle déjà novateur, puisque comme le disait Sébastien, c'est la première fois qu'on faisait ce type d'affaires. Donc ces deux affaires ont vraiment contribué à renforcer, je dirais, l'influence française. Aujourd'hui, quand on dit SkyECC EncroChat, clairement, c'est un outil de soft power pour la France. Hein. La France, possède une partie de ses données. Je dirais que la France est vraiment un partenaire d'un point de vue policier respecté. Aujourd'hui, quand on dit SkyECC EncroChat,
on pense
à la France, et voilà, c'est un outil aussi d'influence et de promotion de la France à l'étranger.
Il y a une autre opération dans laquelle la France participe, pour laquelle la France participe activement, c'est l'opération Most Wanted qu'Europol pilote chaque année. On recherche au niveau européen un certain nombre de personnes qui sont recherchées par toutes les polices d'Europe, c'est ça en fait.
C'est ça, en fait le principe n'est pas très compliqué, c'est des avis de recherche. Comme tout service de police dans le monde en pratique, sauf que nous le faisons à l'échelle européenne et nous utilisons des leviers de communication afin d'être sûr que les gens voient ces vidéos, aillent regarder les visages afin de pouvoir identifier si possible ces fugitifs. On demande aux pays juste de sélectionner les gens les plus dangereux, qu'ils considèrent comme les plus dangereux à l'heure actuelle et qui sont en fuite. Et grâce à ça, c'est une campagne qui a été lancée en 2016. Grâce à ça, nous avons quand même arrêté plus de 136 personnes depuis
beaucoup.
2016. Et rien que sur l'année 2022, 14 personnes ont été arrêtées, dont 5 vraiment grâce à l'activité d'Europol. Mais on parle de fugitifs, ou là, qui sont des gens très importants dans les sociétés criminelles italiennes, des meurtriers, des gros trafiquants de drogue. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très bénéfique, en fait, au final.
Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent, suivez ces campagnes Most Wanted d'Europol, parce que des fois, peut-être que, le hasard faisant, vous pourrez aider une enquête d'un pays d'Europol pour retrouver ces fugitifs. Alors, moi, j'ai peut-être une dernière question. C'est Comment on peut travailler pour Europol, en fait ? Est-ce qu'il y a des recrutements directs ? Est-ce qu'il faut déjà être policier ou gendarme dans son pays ? Alors toi, tu nous as expliqué, Benjamin, comment ça s'était fait pour toi, mais qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui, finalement, veulent participer à cette nouvelle police au niveau européen ?
Alors, bon, tout d'abord, il y a une multiplicité de statuts à Europol. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas ennuyer nos auditeurs, mais en un mot, ce que je dirais, c'est que ce que recherche Europol, ce sont déjà des enquêteurs. Voilà.
Donc, il faut déjà avoir fait ses armes dans son pays.
Voilà,
il faut avoir fait ses armes
dans son pays, savoir ce qu'est une enquête, l'avoir pratiquée et avoir ce sens, je dirais, ce sens de l'enquête policière, ce goût de la recherche, ce goût de l'analyse. Donc, pour rejoindre Europol, le mieux, je dirais, c'est de toute façon de rejoindre
une. Faire son métier dans son pays.
Voilà, une des forces de sécurité intérieure. Après, il faut choisir laquelle.
Les douanes, gendarmerie,
la DGSI, la police. Voilà.
Faut parler plusieurs langues, d'ailleurs, ou.
Alors, il faut quand même pouvoir travailler en anglais, parce qu'effectivement, donc là, nous, on fait notre podcast en français. Mais c'est vrai que nous, notre quotidien, c'est de parler anglais. Donc, effectivement, il faut
au moins l'anglais.
Voilà, il faut
et
investir
puis
un peu.
D'autres langues, c'est bien aussi.
Oui, c'est toujours bien, ça met de l'huile dans les rouages, mais le plus important, c'est l'anglais. Et donc voilà, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut vraiment entrer à Europol, c'est de faire ses armes dans une des forces de sécurité intérieure, enfin dans un service d'enquête français, et ensuite, sous différents statuts, pouvoir intégrer l'agence.
On peut être expert pour Europol si on a un domaine où on est très très bon, je ne sais pas, les vols à main armée, ou avoir vraiment sur... une tête d'épingle finalement où on est extrêmement bon.
Tout à fait. C'est effectivement la caractéristique à Europol, on cherche des expertises. Donc la principale expertise est celle expliquée par Benjamin, mais après on cherche toute forme d'expertise. Et je parlais des crypto-monnaies, mais on peut parler aussi de capacité de hacking. Donc on cherche des profils, essentiellement parmi les forces de l'ordre, mais on élargit aussi, on a une plateforme notamment technologique très importante, où là, sans venir des forces de l'ordre, nous recrutons directement. C'est sur notre site web que je vous invite à visiter. Donc là, vous pourrez voir les offres d'emploi, mais vous pourrez également voir les campagnes You Most Wanted que nous avons citées. Nous essayons de rendre le contenu intéressant et amusant.
Et comme voilà. Ça, on révise un peu son anglais aussi.
Ah, c'est un peu un challenge pour nous Français, mais bon, on y arrive, c'est faisable.
Et alors, est-ce que au moment des Jeux Olympiques Paris 2024, il va y avoir plus de recrutement ? Est-ce que Europol va avoir une implication aussi dans ce dispositif-là ?
Alors clairement oui, Europol va jouer son
va nous aider
va
à
jouer
organiser
sa partition effectivement. Alors il y a les Jeux Olympiques de 2024. Avant ça il y a la Coupe du Monde de rugby.
Ah aussi, vous allez aussi avoir un rôle
dès cette année effectivement. Et donc Europol déjà là c'est discuté, mais va déployer une équipe à Paris là pendant les Jeux Olympiques. Équipe qui sera au contact donc au quartier général où sont réunis l'ensemble des forces de sécurité et françaises et étrangères. Et donc effectivement sera là pour apporter son soutien dans la prévention ou dans les éventuelles enquêtes qui pourraient émerger à ce moment-là.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je pense que vraiment, grâce à vous, on a vraiment compris que finalement, l'Europe, elle est un peu partout, dans notre quotidien, dans celui des enquêteurs. En tout cas, c'est soit dans notre quotidien, soit on peut avoir recours à Europol quand des fois, eh bien, on n'a pas trop... voilà, on a des leviers, des ficelles à tirer. Ben, on a une porte d'entrée aussi via Europol pour arriver à travailler avec d'autres pays. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil, de vos témoignages. Et puis, on ira voir ce site internet. Et on ira suivre notamment les campagnes Most Wanted. Et au moment des Jeux Olympiques, on pensera aussi à toutes les équipes d'Europol qui seront présentes avec nous à Paris. Merci encore à tous les deux.
Merci Camille.